Oui, Seigneur. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as appelés personnellement pour ton œuvre magnifique. Oh, Seigneur, tu vas tout accomplir jusqu'à la fin, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, nous ne sommes pas capables, mais toi, tu es capable. Tu nous rends capables, Seigneur. Oh, Seigneur, tu nous rends capables. Nous te cherchons et nous voulons venir après toi, Seigneur. Agis aujourd'hui dans notre cœur, Seigneur. Oh, à travers ta parole vivante, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, montre-nous, sépare l'esprit et l'âme, Seigneur, en nous, Seigneur.
Amen.
Oh, que tu puisses faire ce que tu as envie de faire en nous, Seigneur. Oh, nous t'aimons, Seigneur, et nous te donnons toute gloire et honneur. Amen.
Alléluia.
Alléluia. Louez le Seigneur pour la parole dans Philippiens. Dans la préparation de la conférence, je n'étais pas tout à fait sûr qu'on parle de ça pour la conférence, parce qu'il y a quelques années, on a déjà eu des partages sur la lettre aux Philippiens. Mais oui, c'est la parole du Seigneur, et sa parole est toujours vivante. Et c'est pas vieux. Quand on se replonge dedans, on va de nouveau être touché. Et pour moi, cette lettre, déjà pendant la préparation, elle était très riche. Tellement riche et précieuse. Ah oui, Seigneur, merci. Le Seigneur, il a envie maintenant d'exprimer plus loin ce qu'on a déjà vu dans les anciennes conférences. Il a envie d'avancer. On a vu Éphésiens avec une vision très haute de l'unité, très belle de l'unité. Oui, mais qu'on aille plus loin. On veut voir avec tous les saints d'être conduit dans l'unité avec tous les frères et sœurs. Il y a un problème technique. Maintenant, c'est bon. Mais dans Philippiens, il décrit pas une haute vision, mais quelque chose de pratique. L'unité, comment l'unité doit être vécue. Et Paul, il parle comment les frères et sœurs doivent se tenir dans cette unité, se comporter dans cette unité. Et on a vraiment besoin de la vision. Et ça me touche vraiment comment la vie de l'Église a commencé à Philippiens. C'était des frères et sœurs qui ont reçu le Seigneur. Différents plans de carrière qu'ils ont eu. Mais le Seigneur les a tous appelés, les a tous mis ensemble. Il a amené le nouvel homme, apporté le nouvel homme. Ils ont été appelés à bâtir cette unité. Et cette lettre, ici, a été écrite quelques années après, mais ça montre que chaque saint dans Christ, dans Jésus, exprime l'unité. Il s'est adressé à tous ceux qui étaient à Philippe. On a besoin de centrer nos pensées sur lui, pas nos propres pensées, mais si penser à lui. C'est les pensées de Christ. Cette pensée, on en a vraiment besoin. Dans le chapitre 2, c'est comme ça que ça commence. Il vous dit, je vais vous le lire, donc Philippiens 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, est-ce que vous avez expérimenté ça? Et moi, je l'ai expérimenté. Moi, je l'ai expérimenté dans l'Église. S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, s'il y a quelque union d'esprit, quelque compassion et quelque miséricorde, s'il y a tout ça, le Seigneur, Paul y dit, rendez ma joie parfaite. Que vous ayez une même pensée. Amen. On peut dire une autre traduction ici. Rendez ma joie complète. Donc, pleine. Notion que ce soit complètement plein. On voit dans. C'est le verset 2. Hein. Ayez une même pensée. Amen. Ayez une même pensée. Et là vient un double point. Il décrit que cette pensée que nous avons besoin pour garder l'unité, même si on est très différents les uns des autres, on apprend que chaque participant à son plan, chaque saint, a besoin de cette nouvelle pensée, de cette même pensée. C'est vraiment, finalement, une nouvelle pensée. Quand on est dans l'Église et on veut bâtir pour son plan, j'aimerais construire avec les autres frères et sœurs. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner sans la nouvelle pensée, sans cette nouvelle pensée? Et selon mon expérience, je peux vous dire non, ça ne va pas fonctionner. J'ai déjà connu plusieurs frères et sœurs qui ont essayé, qui ne voulaient pas penser et qui pensent complètement différemment de moi. Ça ne marche pas. Mais j'ai aussi vécu que ceux qui ont cette nouvelle pensée et ceux qui gardent cette nouvelle pensée peuvent bâtir. Maintenant, on peut aller dans Éphésiens, aller un petit peu avant. On a lu ce verset dans d'autres conférences, dans Éphésiens 4, à partir du verset 22. Éphésiens 4, verset 22. On peut lire tous ensemble, c'est-à-dire, en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme. C'est la version Darby. Je vais juste mettre la version second. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme. Donc, il faut se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pour le nouvel homme, on a besoin d'une nouvelle pensée. On a vraiment besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Donc, pensée, on peut aussi le traduire par intelligence. Et souvent, dans l'Église, on a un problème, on n'arrive pas à garder l'unité. C'est quoi le problème? Pourquoi on n'arrive pas à garder l'unité? C'est dans notre tête, dans nos pensées. Et on doit vraiment, devant le Seigneur, prier, Seigneur, je te donne mes pensées, je te donne mon intelligence. Donne-moi tes pensées. Et je trouve tellement précieux comme l'intelligence est décrite ici. Donc on peut retourner dans Philippiens 2, dans le verset 2. On peut aller après. C'est quoi cette pensée? Cette pensée, c'est ayez un même amour. Et vraiment, cet amour, on doit avoir pour chaque frère et sœur un amour. L'amour est pour Christ, c'est pour lui. Et pour chacun des frères et sœurs. Et quand un papa a des enfants, qu'importe leur caractère, chaque enfant a des caractères différents. Nous, on a trois enfants, chaque enfant a leur caractère. Mais on les aime tous. Et nous aussi, on est différents entre nous. Et le Seigneur, il nous aime aussi, même si on a des caractères très différents. On doit s'aimer aussi les uns les autres, comme lui nous a aimés. Pas de différence entre nous. Le Seigneur a le même amour et nous, on doit avoir aussi le même amour comme le Seigneur nous aime tous. Une même âme, une même pensée. C'est la suite du verset. Le verset 3, je trouve aussi très important. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien de vous-même, en fait. Selbstsucht, c'est la vanité. Et en fait, en allemand, c'est vraiment quelque chose qui vient de toi. C'est l'ego, ça vient de toi. Le moi qui est au centre, c'est ça l'égoïsme. Le moi, c'est le plus important. Ce que je pense, ma pensée, comme je pense, comme je vois les choses, comme je veux qu'elles soient, eh bien, c'est comme une dépendance, en fait. Que tout se fasse comme moi, je le veux. Et puis, pour toi, c'est important que ce soit fait comme toi tu le veux. Et ça, c'est ce qu'est décrit dans le verset 3. Tu ressens déjà, tu commences à te déranger. Si ton ego n'est pas rempli, ça se passe souvent dans la famille ou avec ton épouse. Si tu penses qu'à toi, des fois tu penses qu'à toi, ben tu détruis. Tu détruis ce que tu as autour de toi si tu gardes juste ton moi et tes pensées et que tu ne changes pas d'avis. Tu te bats pour ton moi. Et à la fin, quand tu grandis, quand tu te réveilles, je veux dire, et puis tu regardes en arrière, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'ai fait quelque chose de tellement stupide. Pourquoi j'ai tout détruit? Et ce genre de choses, peut le dire. Pourquoi j'ai fait ces choses à ma femme, à mes enfants? Mais c'est vraiment une maladie, le vieil homme. Et le Seigneur doit vraiment nous laver de notre vieil homme. Chaque fois que je pense à moi et à mon ego, le Seigneur dit « Ne fais rien par esprit de vanité. » Et c'est vraiment important. Il faut vraiment pas chercher quelque chose pour soi-même. Dans l'œuvre du Seigneur, ce ne sera jamais moi. Ce ne sera jamais mon moi. Mais en humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ça ne regarde pas toi, ça regarde vraiment les autres dans le plan du Seigneur. Regarde les autres, sers les autres. Regarde les autres, comment je peux aider les autres. Le Seigneur a vraiment une autre pensée que notre vieil homme. Là, il dit la suite, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, c'est versets 4 et 5. Et pendant la préparation, j'ai pensé à un verset dans Jean 13, 1 à 5. C'est une situation, comment le Seigneur a agi. Jean 13, 1 à 5. Donc c'était juste avant sa mort, son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et le Seigneur, il connaît ça. Il a vécu cette situation. Il s'est levé pendant le souper et il a commencé à nettoyer les pieds de chaque disciple. Il a lavé les pieds de chaque disciple. Là, tu as vraiment besoin d'humilité. Humilité. C'est les esclaves qui font ça, c'est ceux qui servent, c'est pas les rois. C'est pas la tâche la plus facile à faire, de nettoyer les pieds. Et après, il a dit, c'est un peu après, il a dit, j'ai fait ça. Moi, le Seigneur et le Maître, c'est le verset 14, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'était pour servir d'exemple, lui le plus grand qui sert, que nous aussi, on serve. Et si, toi Thomas, il y a quelqu'un qui a les pieds sales, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire, va te laver les pieds. Allez, va te laver. Mais le Seigneur a fait autrement. Il les a lavés, ceux des autres. Oh Seigneur Jésus, là ça me touche vraiment souvent. Aussi dans ma famille, on s'est préparé pour venir à la conférence. On se sont préparés pour aller à la conférence. Est-ce que je dois faire ça maintenant? Est-ce que tu dois le faire maintenant? M'exhorte vraiment de ne pas juger les autres, mais plutôt de les aider. Quand il y a quelque chose qui te dérange dans l'Église, aide cette personne plutôt que de juger ou de critiquer. Quand l'atmosphère est tendue dans la famille, quelqu'un n'est pas dans un bon état, grave, je peux aussi faire des reproches, je peux aussi m'énerver. C'est pas l'attitude du Seigneur. Prie pour lui plutôt. Donne-lui la grâce. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux améliorer la situation pour que ça aille mieux? On peut ensemble agir pour que la situation s'améliore. Ça, cette attitude, il faut vraiment l'avoir. On doit l'apprendre par le Seigneur. Il faut vraiment l'exercer. Et en s'exerçant, le Seigneur nous donnera la lumière et la connaissance de pouvoir le faire.
Dinge, die oft die Gemeinschaft stören wollen, der gibt uns wirklich Gnade, wie wir
einander. Le Seigneur nous donnera la grâce. Nous donnera la capacité à faire ça. Et ici, dans Philippiens, il faut vraiment considérer ses propres intérêts. Pas considérer ses propres intérêts, considérer aussi ceux des autres. Donc à la place de considérer ses propres intérêts, considérer ceux des autres. Si tu regardes pas seulement de ta position, ton point de vue, mais aussi regarder le point de vue des autres, comment les autres voient. Et ça, tu peux le faire en humilité. Et là, vraiment, on a besoin de changer notre pensée, d'avoir la pensée de Christ en nous.
Et
le Seigneur agit en nous pour le faire. Amen. Oh, Seigneur Jésus. Oui. Ce point est vraiment très important, de l'humilité avec les autres. On en a vraiment besoin. Notre pensée avec les autres. Parce que on n'a pas tous le même arrière-plan, le même passé. Et dans Romains chapitre 14, c'est le point B,
là
dit le verset, c'est chapitre 14 de Romains.
Il
faut supporter les faibles. Ouais, c'est le verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible mange que des légumes, que celui qui mange ne maîtrise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges, verset 4, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et je lis encore un petit peu la suite. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Verset 6. Oui, dans l'Église, on vit tout le temps cette situation. À propos de différentes choses, alors peut-être pas ces exemples, mais on a tous des points de vue différents sur certaines situations. Il y a des choses qu'on ne peut pas traiter comme c'est décrit là. Ouais. Il y a des points de vue qui sont dommageables pour l'Église, qui font des dommages, qui détruisent l'Église, qui apportent des péchés à l'intérieur de l'Église, qui ne sont pas saints. Par exemple, si quelqu'un vit non marié avec quelqu'un, ça ne va pas. On ne peut pas accepter, on ne peut pas appliquer cette phrase, ce verset à chaque situation. On ne peut pas dire, ouais, c'est bon, chaque pensée, on peut l'accepter. Non, ce n'est pas ce qu'a voulu dire Paul, là. La maison du Seigneur est saine. sainte. Et on doit faire attention à cette sainteté. On doit apprendre à tester, juger ce qui est important. Et ce qui m'a touché dans Philippiens 1, j'aimerais encore lire une version. C'est une version différente de ce qu'ils lisent normalement. C'est verset 9 qui veut lire. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Philippiens 1, 9. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. D'où ça vient? Qu'on puisse discerner les choses les meilleures. Comment on peut discerner ce qui est bien ou pas dans l'Église? Il y a des choses dans l'Église qui sont importantes et d'autres moins importantes. Si quelqu'un pense qu'on peut tout manger et quelqu'un pense qu'on ne doit pas manger certaines choses, là, ce n'est pas si important. Là, Paul, il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou boire. Dans l'Église, on doit vraiment avoir une décision, discerner de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Des choses importantes et des choses qui ne le sont pas importantes. J'ai vraiment des choses qui sont un peu moins importantes. On doit les accepter, les vivre, les subir. J'ai connu des saints qui avaient une autre base chrétienne et qui disaient on doit seulement prier à genoux ou debout. Et ça les dérangeait quand quelqu'un était assis et priait. Il faut se lever ou se mettre à genoux pour glorifier le Seigneur. Mais il n'y a pas un endroit dans la Bible qui dit qu'on doit rester assis, debout ou à genoux, qu'on ne peut pas s'asseoir. On ne doit pas disputer pour ce genre de choses. Ce n'est pas très important. Et quand ils sont venus, cette famille, et qu'ils nous ont rendu visite, et on s'est levé et on a prié tous ensemble debout. Je ne voulais pas être une pierre d'achoppement pour ce frère. Le Seigneur, il a écouté ma prière, malgré tout, quand j'étais assis. Ou quand je suis assis. Mais ce serait mauvais que je sois une pierre d'achoppement pour quelqu'un qui pense différemment pour des sujets peu importants. Et voilà, on a prié ensemble debout. Je remercie le Seigneur pour ça. Tu peux aller devant le Seigneur et chercher le Seigneur pour ce genre de sujet. Et puis voilà, pour le Seigneur, ça ne change pas grand-chose que tu sois assis ou debout. Et on doit réagir comme ça. On doit essayer de discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et chercher le Seigneur pour ça. Le Seigneur. Pour qu'on puisse courir après le Seigneur. Et bâtir. Il faut accepter les uns les autres. S'accepter entre nous. Et pas nous mépriser. C'est intéressant dans ce genre de choses. On peut dire, je ne peux pas le convaincre. Tu dois faire comme ça ou le comprendre comme ça. ces pensées
dans Hébreux, chapitre 8, verset 11,
aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Hébreux 8, verset 11. C'est un privilège dans la Nouvelle Alliance qu'on va tous connaître le Seigneur. Tous me connaîtront. Parce que le Seigneur, il s'est lui-même révélé. C'est la Nouvelle Alliance. Tu ne dois pas te dire « je dois croire comme ça » ou « je dois comprendre comme ça ». Tu ne dois plus dire ça à tes frères et sœurs ou aux autres saints, parce qu'on aura tous la même pensée. On connaîtra le Seigneur. Et on doit laisser cette tâche au Seigneur et pas le faire nous-mêmes. Le Seigneur doit se laisser régner par le Seigneur. Chacun de nous doit se justifier devant le Seigneur. On peut quand même avoir de la communion entre nous. On peut aussi aider les autres. Ça, on doit avoir de la communion pour recevoir la révélation. Mais si quelqu'un a une révélation, ça appartient à Dieu. Et dans Romains 14, on revient au verset avant à propos de la nourriture ou de la boisson, ça m'a impressionné. C'était sûrement un grand point pour certains, avec un passé juif qui faisait les traditions encore juives, et puis il y en a qui étaient grecs, qui n'avaient pas de base juive. C'était vraiment un thème important à propos de la nourriture. Aujourd'hui, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger, les juifs. Ils avaient beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas manger, et les grecs pouvaient tout manger. Mais Paul y répond quoi ? C'est pas un problème. Mais cette pensée peut faire des problèmes. On voit un exemple de Pierre. On peut prendre dans Marc 7, le Seigneur il parle aux disciples. Marc 7, à partir du verset 15, on peut lire ensemble. On peut déjà commencer au verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il met hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Marc 7, 14, 15. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. » Et il a déclaré chaque aliment saint, avec cette phrase, chaque aliment pur. Et il savait, pour les gens qui écoutaient, c'était très difficile à accepter, parce que c'était complètement contre les traditions juives qui étaient posées, et tout ce qui avait été écrit dans le passé, par exemple. On ne peut pas manger de cochon. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était interdit. C'était écrit dans les lois. Mais comment c'est possible? Le Seigneur leur a expliqué une deuxième fois aux disciples. parce qu'ils n'avaient pas compris. Pour eux, c'était pas acceptable. Et dans Acte 10, cette situation où le Seigneur l'a préparé, a préparé Pierre à propos des Juifs, quand il allait vers les païens pour leur prêcher l'Évangile. Et il ne pouvait pas, j'essaie de chercher le verset, parce qu'il n'a pas dit. Il a fait un rêve à propos des animaux, où il était mélangé avec plein d'animaux. Donc c'est Acte 10, à partir du verset 11. Et au verset 13, une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, jamais. » En allemand, c'est jamais la traduction. Jamais, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Il n'avait pas encore réalisé. Il a répondu, « Jamais je mangerai ça, et jamais je l'ai mangé avant. » Souvent, on pense comme ça aussi à propos des choses anciennes. Mais il avait quand même sa place dans l'Église, même s'il n'avait pas compris. Il avait aussi un autre point de vue, mais le Seigneur lui a quand même donné sa place, malgré son point de vue différent. Il lui a donné du temps pour qu'il le voie. Et ça a pris du temps que le Seigneur puisse lui révéler. Il devait encore lui parler. Trois fois, il est venu vers lui et lui a dit. Donc là, verset 15. Pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas souillé, pas comme souillé. Puis là, au verset 16, c'est arrivé trois fois. Et avec nous, c'est aussi comme ça, où on a nos points de vue et des points religieux. Et puis le Seigneur, il veut construire l'Église avec nous malgré nos points divergents. Il faut avoir l'humilité pour avancer avec lui. Le Seigneur doit nous révéler. Si Pierre était aujourd'hui dans l'Église, est-ce qu'on l'accepterait dans l'Église avec son point de vue par rapport à la nourriture? Est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on lui dit « Non, désolé, t'es trop religieux, on t'accepte pas dans notre assemblée. » Il faut le tester, il faut l'amener devant le Seigneur. Et on voit dans Philippiens, chapitre 3, verset 15, Philippiens 3, 15, « Nous tous, donc, si nous sommes nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. » Qu'est-ce que c'est, cette pensée? Et c'est quoi, cette pensée? De quelle pensée il parle? On n'était pas encore dans le chapitre 3, mais on le sait quand même. C'est de suivre le Seigneur. Gagner Christ. Pas ma propre pensée. Pas ma propre justice. Mais vraiment saisir Christ. Tous ensemble. Et cette pensée, on l'a. Et le Seigneur, ouais, c'est la suite du verset. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne peut pas éclairer les autres, personnellement. On ne peut pas répondre à certaines questions. Et ça ne regarde pas les autres de le faire nous-mêmes. Ce n'est pas à nous de le faire. C'est le Seigneur qui va nous révéler. L'Esprit va nous convaincre. Le Seigneur va nous le révéler, comme le dit Philippiens 3, 15. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. On est des témoins. Et le Seigneur doit nous le révéler. Et en même temps, Si quelqu'un ne le voit pas et qui amène des dégâts dans l'Église, qui détruit l'Église, on doit lui dire, tu as un point de vue, mais je pense que c'est un péché, c'est quelque chose de pas sain. On ne peut pas le laisser dans l'Église. On ne peut pas accepter ça dans l'Église. Et ce point est très important. J'aimerais renforcer ce point parce que on a besoin de discernement pour pouvoir voir les points importants et pas. J'ai un verset encore dans 2 Timothée 2 sur le cœur. 2 Timothée 2. On a vraiment besoin de voir les deux côtés. On doit vraiment voir la chose, la portée, et voir que le Seigneur éclaire, quelle est la volonté du Seigneur dans cette situation. Et dans le verset 14, donc 2 Timothée 2, 14, appelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de moi, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. La suite, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme de la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Détruisent la foi de quelques-uns. Juste un point de vue. C'est pas juste un point de vue, pardon. C'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Ça détruit la foi des frères et sœurs. Ça fait des dégâts à l'Église. Ce n'est pas juste un point de vue. On doit pouvoir discerner ce qui est important ou pas. Là, c'est une autre description par rapport à ce qu'il y a dans la nourriture. Et dans le verset 19, donc 2 Timothée 2, 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. La suite. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 21. Et encore 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Verset 22, 2 Timothée 2, 22. Oh Seigneur Jésus, nous avons ce fardeau de garder l'unité dans son Dieu. C'est ce que le Seigneur désire. Toute chose. C'est important. J'ai hésité à écrire dans le titre « La pensée de Christ pour l'unité des croyants dans la localité ». Parce que ça apporte un aspect encore important, c'est le lieu. Dans chaque lieu, beaucoup croient certaines choses. Et dans la maison du Seigneur, on doit, c'est le verset 1, chapitre 1, verset 1 de Philippiens. doit avoir à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe.
Eine evangelische Allianz, die sagt, ja, wir sind ja alle eins.
Et on est...
Das wäre eigentlich die Einheit im großen Haus.
Et l'unité dans sa grande maison.
Ja. Das Christentum heute hat sich zu diesem großen Haus
entwickelt. Peut l'obtenir que si on a Christ comme tête.
Als Paulus den zweiten Timotheusbrief schreibt,
la chrétienté veut s'unir dans une grande maison. Mais est-ce qu'ils ont tous la même pensée, Christ au centre?
Et
pendant des siècles, le royaume de Dieu est devenu comme un arbre avec toutes ses dénominations, il est devenu de plus en plus grand. Mais il y a eu un mélange de la farine et du levain. Et c'est ce qui a rendu. Ça va être la grande Babylone dans Apocalypse.
Das sind Bilder. Gold und Silber steht für die Natur und das Wesen Gottes.
Et on est donc ces versets 2 Timothée 2:20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a plein qui sont d'un usage vil, un peu moins bien, moins utile. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en bois et en terre. Ça veut dire que c'est la chair. Et le monde. Et on doit se purifier pour être. Donc, ça, c'est le verset 21. On doit se purifier pour être un vase d'honneur. Se purifier, se sanctifier. On doit être utile à notre maître. On doit pour ça avoir une distance avec les autres vases. Sinon, on ne peut pas être utile à notre maître. Et on ne sera plus utile à notre maître. Ça, je le dis particulièrement aux jeunes, parce que je suis sûr que vous tenez aussi avec ce conflit. Comment je me comporte envers l'unité, dans l'unité du Seigneur? Et c'est important de savoir ce qui est important, de discerner ce qui est important. Qu'est-ce qui est d'or et qu'est-ce qui est de bois? Et vraiment, essaye de discerner, apprends à discerner. C'est important. Et de fuir les choses charnelles, c'est ce qu'après dit dans le verset 22. On ne peut pas juste suivre ces courants. Parce qu'on ne peut pas être un si on suit ces courants. Ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter les croyants, tous les croyants. Mais même pour ses frères et sœurs, on doit avoir un esprit d'humilité. On revient dans 2 Timothée 2. 23 repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles, des disputes. Et là, le 24, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à renseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. On doit vraiment avoir cette attitude, faire attention à ceux qui sont dans l'âme. On doit faire attention aux frères et sœurs qui sont charnels. on doit les... Et on doit les redresser. C'est ce que dit dans le verset 25. Faire attention, mais aussi les aider. Les redresser avec douceur. Et puis, le Seigneur leur donnera la repentance. Et cette attitude, on doit vraiment l'avoir pour l'unité. On le voit aussi dans Apocalypse 2 et 3. Les différentes églises sont décrites. Les différentes églises qui sont décrites avec différents problèmes. Mais ils ont toujours un cœur pour le Seigneur. Et Dieu a un cœur pour eux. Alors ils doivent se repentir, changer. On ne laisse pas juste agir Satan. Ils doivent changer. Et cette attitude, on doit l'avoir pour chaque frère et sœur. Cet amour pour qu'il change. Ça ne veut pas dire que tout en dehors de l'Église est charnel. On sait qu'il y a des frères et sœurs dans Babylone. Il y a aussi des vases précieux qui ont été pris à Babylone après que Babylone ait attaqué Israël. Mais ils ont été ramenés. Et on doit avoir vraiment un cœur de poursuivre ensemble le Seigneur. Et peut-être il y a d'autres frères et sœurs qui ont d'autres façons de prier le Seigneur. Et nous, on doit avoir... Ils aiment le Seigneur, ils cherchent le Seigneur, et nous, on doit avoir le discernement. Est-ce que c'est important, ces différences, ou pas? Et ça, c'est dans le Seigneur qu'on peut avoir la réponse. Et s'il y a quelque chose du vieil homme, on ne peut pas l'accepter. Et Seigneur, donne-nous ta grâce. Parce que c'est vraiment important comme question, comment on peut garder cette unité dans l'Église. Laisse vraiment le Seigneur t'éclairer, t'aider dans chaque lieu. Le Seigneur, il peut te parler. Il cherche encore un verset dans Philippiens 1, verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est 9 à 11. On peut encore le lire tous ensemble. Philippiens 1, 9 à 11. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Philippiens 1, 9 à 11. Pour le discernement des choses les meilleures. On a besoin de plus d'amour, c'est verset 9. Votre amour augmente pour le discernement. Et ça, on doit vivre au quotidien, que le Seigneur puisse grandir son amour en nous. On a vraiment besoin de l'amour. L'amour est toujours pour nous. Mais c'est un amour qui corrige aussi. Son amour est si merveilleux. Dans Apocalypse, quand le Seigneur voit avec des yeux, il lance des flammes. Seigneur, chapitre 1, verset 8, verset 5, pardon. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, hein, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par le sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire, à la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'est dans Apocalypse 1, versets 5 et 6. Et on doit avoir ce feu qui brûle en nous.